Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Est-ce que vous savez ce que c'est que l'astroturfing? Vous le savez, j'aime bien regarder comment on arrive à manipuler les émotions, comment on arrive à utiliser le digital pour transformer la réalité dans le sens qu'on le souhaite. J'ai déjà traité le sujet pas mal de fois avec plein d'angles différents. Et cette fois-ci, je reçois Nicolas Van Der Bies, que j'ai déjà reçu sur ce podcast. On avait traité un sujet qui était est-ce que la démocratie est compatible avec les réseaux sociaux? Et cette fois-ci, donc, on va parler d'astroturfing. Donc, vous allez comprendre ce que c'est d'abord. Et puis, voir comment on peut l'utiliser au niveau personnel, mais aussi au niveau d'une entreprise. Et puis, finalement, au niveau d'un État. Et c'est là où, d'un parti politique. Et c'est là où ça devient évidemment plus problématique. On va parler de simplicité, on va parler de complexité. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un concept que des gens connaissent, mais dont ils ne connaissent pas forcément le nom, ils ne connaissent pas tous d'ailleurs, qui est l'astroturfing. L'astroturfing, on pense à plein de choses, mais qu'est-ce que c'est que... C'est quoi en fait l'astroturfing? Est-ce que tu peux te décrire?
Alors en fait, l'astroturfing, c'est un concept qui considère en fait que on peut faire un soulèvement populaire qui en a en tout cas l'apparence, mais qui n'en est pas du tout dans la réalité. En fait, l'étymologie du mot, ça vient d'astroturf en réalité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un produit de Monsanto, le même que pour le glyphosate. C'est un produit en fait de gazon synthétique, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment dans les stades de football américains, on a remplacé la pelouse qui n'était pas assez performante, qu'il fallait souvent changer, par du gazon synthétique. Et en réalité, dans les mouvements citoyens, l'étude et autres, on appelle les mouvements citoyens les grassroots movements.
Ouais.
Et donc, c'est cette opposition entre pelouse véritable, mouvement citoyen, et pelouse feinte. AstroTurf qui est utilisé et donc on utilise le mot AstroTurfing.
Donc ça implique de par exemple acheter des followers, ce qu'on retrouve beaucoup, on connaît ça en tout cas sur Instagram ou autre, c'est-à-dire des gens qui achètent des followers pour faire croire que c'est des influenceurs, mais en fait ce qu'on remarque et ce à quoi tu t'intéresses toi, c'est que c'est aussi vrai pour les entreprises, pour des fédérations ou des associations et parfois dans la politique. T'as des exemples comme ça, alors peut-être fédération et entreprise, mm-hmm. peut-être pas au niveau individuel, c'est peut-être moins intéressant, mais...
Oui, c'est-à-dire c'est pas non plus nouveau, mais c'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux et le web, ça s'est accentué, parce qu'on peut donner l'illusion de majorité, on peut donner l'illusion en fait d'influence, on peut donner l'illusion de populaire, alors que derrière, il n'y en a rien. Mais ouais. Par exemple, l'industrie du tabac envoyait des courriers des cœurs. Quand vous partez du parti pris qu'il y a à peine 2000 personnes qui envoient un courrier au New York Times et qu'il y en a 8 qui sont sélectionnés, ça vous donne quand même une bonne partie si vous envoyez toutes les semaines un courrier des cœurs pour faire partie de finalement une opinion qui est exprimée auprès d'une large audience. Ouais. Ça va être déployé exactement de la même façon sur les réseaux sociaux. Alors ça va être soit j'organise des grosses opérations, par exemple en Corée du Sud, il y a eu comme ça une opération d'astroturfing où la présidente sortante avait fait envoyer plus de 24 millions de tweets contre son principal opposant. Mais ça va être aussi des choses toutes bêtes, à un niveau très très individuel, mais j'ai envie de faire croire que j'ai plus d'influence que j'en ai. On en parle beaucoup avec Instagram et autres. Mmh. Et je vais acheter des faux followers. Et donc... ça va être complètement fin. C'est par exemple Faouzen Lamdaoui, qui est un ancien conseiller de François Hollande, qui avait utilisé ces techniques. J'achète des followers, je tape sur Google et autres. Après, il y a des personnes qui n'achètent pas, qui vont aller chercher du vrai, mais qui vont utiliser des techniques pour se faire. C'était par exemple l'exemple de Xavier Couture. Xavier Couture, en fait, il a suivi un maximum de personnes. Enfin, je pense que quelqu'un l'a fait pour lui. Ces personnes ont vu, oh mon Dieu, je suis suivi par Xavier Couture. Génial, incroyable, je vais le suivre. Peut-être qu'on va boire un petit café ensemble. Et en réalité, après, il a défollowé tous ces individus et il avait en une semaine 14 000 followers sur Twitter alors qu'il venait d'arriver.
Donc, c'est follow and follow.
Voilà, exactement. Après, ça va être sur d'autres champs. Vous êtes sur des degrés un peu plus sociétal. Vous allez un peu monitorer les sondages qu'il y a sur différents sujets. L'extrême droite est très forte à ce petit jeu. Sur le foulard, ils sont très très actifs. Et c'était un blogueur, d'ailleurs, de la sphère musulmane, qui était Alcance, qui avait un peu, un jour, dit « Ah bah tiens, faut-il supprimer le voile ? Bah je vais voter 20 000 fois. » Et c'était un peu moqué des médias comme ça, parce que c'est très très simple en réalité. Hein. Vous changez d'IP à chaque fois, vous avez un petit logiciel automatique qui feint un comportement, vous pouvez voter comme ça 20 000 fois et faire croire qu'en fait la France entière veut la fin du foulard, et il est temps qu'on réagisse d'ailleurs. Donc, c'est toute cette série de petites techniques qui vont être utilisées et qui petit à petit vont s'industrialiser. Les réseaux sociaux avançant, forcément, les agences de communication vont se dire, mais tiens, c'est intéressant, je peux faire pas mal de choses. Il y en a comme ça dans ce rayon-là, vers les années 2010-2011, je crois, l'agence de communication Havas, en fait, qui avait utilisé l'achat de fans sur Facebook, mais pour faire croire qu'en fait, les Français voulaient un nouveau stade national de rugby. Ils avaient oublié une petite chose, c'est qu'en fait on pouvait voir à propos de la page quelle était la ville qui était la plus représentée dans les fans et on était au Bangladesh à Dhaka. Donc à part si là-bas ils veulent un stade national de rugby, parce que c'est bien connu que là-bas le rugby percole particulièrement bien, ben voilà. Mais ça donne l'illusion finalement que il y a un intérêt, il y a un support et ce type de choses. Et ça va aller crescendo. On va avoir exactement la même chose. Il y a pas longtemps, j'avais comme ça révélé le fait que les Jeux Olympiques de Los Angeles avaient triché aussi. En fait, leur parti pris, c'était quoi? Ils voulaient prouver aux CEO, ceux qui décidaient l'organisation des JO, que la candidature de Los Angeles par rapport à Paris, il n'y avait que deux candidats, était davantage une candidature du pays, mais aussi qui concernait les jeunes. Alors que Paris, c'était les vieux et pas les jeunes. Et donc, ils avaient voulu faire croire qu'ils avaient beaucoup plus de followers, en fait, sur Facebook. Or, en fait, quand on observait les chiffres, on voyait le Bangladesh en deuxième position, justement, avec 104 000 fans. Ah, le Bangladesh, fans à mon avis, il y a des très très belles usines. Le Pakistan en troisième, je suis sûr qu'ils adorent les États-Unis et Los Angeles. Ils veulent que les JO soient là-bas, à 90 000 fans et autres. Et en fait, tout ça avait été fin et ils avaient été mis un peu en porte-à-faux juste avant la présentation. Ce qui leur a fait dire, par exemple, que j'étais un espion français. Et d'avoir des excuses aussi belles que... Mais en fait, on voulait simplement des followers, donc on a demandé à Facebook une campagne de recrutement, mais pas chère, et les campagnes de recrutement là-bas, c'est là-bas que ça se déroule. Sauf que je veux bien qu'on y redire à des personnes du Pakistan, supporter la campagne de Los Angeles, à mon avis, ça coûte cher quand même pour qu'ils se mettent à 100 000 à supporter le projet.
C'est clair. En fait, c'est intéressant parce que quand on parle de ce principe de truquer finalement les chiffres des réseaux sociaux, on pense souvent à des personnes à la petite semelle, c'est-à-dire des influenceurs qui essaient de montrer qu'ils sont plus importants qu'ils ne sont. On pense peut-être à des marques qui peuvent être malhonnêtes ou qui veulent un rapport à leur patron pour dire « Regardez, cette vidéo, elle était vachement vue ou a été beaucoup retweetée. » Bon, j'imagine que... Il y a pas mal de marketeurs qui ont fait ça sous le manteau et qui doivent trembler là, au moment où on en parle, ou que ça doit les faire rire, je sais pas. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est quand ça implique des décisions soit politiques, politiques en fait, parce que même quand tu parles des JO, c'est politique quelque part, qui ont des impacts extrêmement forts sur les pays. C'est là où ça devient... je crois, plus intéressant et où on se rend compte que les journalistes, par exemple, tu prenais l'exemple du... pardon, je dis deux fois exemple, mais tu prenais cette histoire de foulard sur un sondage où il y a X milliers de personnes qui ont dit on veut plus de foulard en France. Potentiellement, c'est une information que les journalistes vont reprendre, alors qu'en réalité, il n'y a rien derrière. Et c'est là où ça devient plus compliqué parce que ça peut mener à de la désinformation complète de la population.
C'est ce que j'appelais en fait, et je pense qu'on en avait déjà discuté, ouais. La méta-information. C'est-à-dire que ce qui compte n'est plus tant l'information en tant que telle, l'information brute, le fait. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a autour. Et c'est ça le danger dans un climat où en fait le journaliste est en quête de légitimité et a l'impression de devoir se racheter par rapport au public. Et ce qui fait qu'il n'est plus quelqu'un qui va digérer les faits et les mettre, c'est un porte-voix. Et aujourd'hui, on alpague les journalistes parce qu'ils ne sont pas ou ne seraient plus des porte-voix.
Ils sont déconnectés,
or,
on dit.
Or, c'est dangereux, en fait, de se dire, s'il y a beaucoup d'interactions sur les réseaux sociaux, forcément, c'est qu'il y a un intérêt du public, et donc il faut en parler. Moi, c'était le départ, en fait, de mes quêtes sur les réseaux sociaux et des analyses que je produisais, en tout cas d'un point de vue sociétal, en dehors des marques, puisque c'était mon premier dada, c'était les marques. C'était l'affaire du bikini de Reims, par exemple, où il y avait une femme qui s'est fait attaquer dans un parc de Reims, un journaliste de l'Union Noire Ardennaise fait un petit commentaire avec des relents de police religieuse qu'il y avait une attaque. Très rapidement réagissent les réseaux sociaux. En réalité, c'est juste l'extrême droite. Mais comme les réseaux sociaux le placent en trending topic, BFM en parle. Comme BFM en parle, SOS Racisme en parle. Comme SOS Racisme en parle, petit à petit tout le monde en parle. Et on a une dépêche AFP qui nous met « les réseaux sociaux sont en feu ». Donc, la dépêche AFP n'est pas sur « il y a une agression dans un parc de Reims », il est sur « les réseaux sociaux sont en feu ». Et c'est cet essor de la méta-information qui est un peu dangereux et qui a été investi de plein fouet en fait par les extrêmes et autres. C'est-à-dire, qui est la deuxième phase de l'ère historique. Première historique, il faut réinformer les gens. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas de médias qui expriment les opinions que nous avions. Deuxième historique, c'est il faut influencer les médias et leur montrer que c'est plus important qu'ils ne le pensent. Et donc de faire croire qu'il y a un soulèvement populaire. Et là, arrive l'essor de la production de l'extrême droite et donc tous ces mécanismes d'astroturfing pour faire croire qu'il y a beaucoup plus là derrière et que c'est la France tout entière qui a mis. Si je reviens, parce qu'on était en politique, dans un champ un peu plus entreprise, j'ai le souvenir comme ça d'une campagne qui avait été réalisée par une petite ONG végane qui avait attaqué Nutella. Stop Nutella et l'huile de palme en particulier. Et donc, c'était pas Greenpeace, hein, c'était une petite ONG végane, etc. On était en été, donc forcément très peu d'activité. Et je découvre un article de Rue 89 à l'époque, donc dans l'Obs, où il y a l'interview du patron de l'ONG qui nous dit « La rapidité avec laquelle le hashtag a été propulsé montre qu'aujourd'hui la France veut du changement. » Oh, la France, incroyable. J'observe les chiffres. 1000 tweets, dont 400 après l'article et 600 qui viennent de 200 personnes avec que du vegan à l'intérieur des pseudos. En réalité, derrière la France, il n'y avait que le vegan. Et c'est un peu ce tournant, en quelque sorte. C'est que je vais pouvoir, par un soulèvement populaire, pouvoir faire parler d'une problématique juste parce que j'en ai donné l'illusion. Et ce qui me fait dire aussi qu'on vit à une époque qui est extrêmement compliquée pour les organisations, les institutions, mais aussi les marques. Pensez un peu quand vous étiez attaqué par une ONG ou quoi que ce soit. On vous attaquait aux 20h. Et on disait, cette entreprise fait ceci. Pas de problème. L'entreprise revient le lendemain aux 20h. Elle peut parler à plus ou moins la même audience. Elle a un droit de réponse. Et elle peut dire, en tout cas, sa version de l'histoire. Et donc, elle a accès au même public. Et elle peut démentir. Elle a un droit de réponse. C'est inscrit même dans la loi. Imaginez maintenant sur les réseaux sociaux, donner l'illusion qu'en fait les citoyens sont contre vous, comment est-ce que vous allez dire « non mais ils ont faux » puisque c'est les citoyens. Mais d'autre part, sur les réseaux sociaux, je vais être alpagué au sein d'une audience auquel je n'ai pas accès. Je n'ai pas du tout accès à cette audience parce qu'elle n'est pas la mienne, elle n'est pas la mienne que j'ai recrutée ou quoi que ce soit. Quand bien même je sortirais la seule force d'une entreprise, c'est ses deniers, son argent, je ne pourrais pas atteindre ces personnes-là. Et donc, aujourd'hui, on est dans un déséquilibre des forces latent par le fait que, finalement, à la fois les institutions, les ministères et autres, à la fois les grandes marques, qui avaient avant le grand pouvoir grâce à son argent, sont dans un déséquilibre des forces complet par rapport à ce qui serait citoyen, ce qui serait des réseaux sociaux, ce qui serait du peuple, ou ce qui pourrait faire l'illusion d'être du peuple. Parce que c'est devenu tellement complexe de dire là derrière ça n'est pas citoyen, que c'est impossible pour une marque qui se ferait prendre à partie de prendre le temps de déconstruire cette construction citoyenne qui n'en est pas, mmh. et puis de répondre sur quoi on l'attaque. C'est impossible. Ouais. Vous avez des séquences de 30 secondes dans un média. C'est impossible.
Et alors du coup, alors évidemment ça pose plein de questions, c'est très lié à l'épisode qu'on avait fait effectivement ensemble, qui est déjà passé sur la manipulation via les réseaux sociaux.
C'était sur la démocratie et les réseaux sociaux.
C'était la démocratie,
la
manipulation.
Ouais. C'est plutôt aujourd'hui la manipulation.
C'est vrai, c'était, est-ce que la démocratie et les réseaux sociaux sont compatibles? Mais c'est une forme de manipulation de l'opinion, c'est à ça que je faisais référence, et en particulier, et c'est ce qu'on avait discuté la dernière fois, utilisé par beaucoup les partis extrémistes, et principalement l'extrême droite. On se rend compte que les journalistes, ce que tu disais tout à l'heure, utilisent plutôt de la métadonnée plutôt que de la donnée, enfin des faits. Métadonnée étant ce que tu décrivais, c'est-à-dire ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais qui ne sont pas, en particulier Twitter, la vox populi, comme on pourrait l'imaginer, mais plutôt le fait de certaines personnes qui ont un usage très particulier des réseaux sociaux. Aujourd'hui, en dehors du fait que c'est un peu fucked up, et que y a un problème à